Bonjour, c'est Renaud Dely. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute.
La scène se répète au-dessus de la bande de Gaza. La Jordanie, la France et les États-Unis procèdent à des parachutages d'aide humanitaire. Des colis sont largués sur le bord de mer, comme sur cette plage de Rafah. Privés de tout, les habitants, dont beaucoup d'enfants, tentent de récupérer quelque chose à manger, comme un cadeau du ciel pour ce jeune Palestinien.
Qu'est-ce que c'est ?
De la farine.
Tu en as combien ?
Au moins 10 kilos. Ça vient des parachutes là-haut.
Après 5 mois de guerre entre le Hamas et Israël, la population est devenue complètement dépendante de l'aide humanitaire. Une distribution a tourné au drame la semaine dernière lorsque des milliers de Palestiniens se sont rués sur des camions. L'armée israélienne a ouvert le feu. Une centaine de personnes seraient décédées dans des circonstances qui restent à établir. Endeuillés, déplacés et affamés, les Palestiniens se sentent pris au piège.
La situation est devenue indescriptible. On n'a pas assez d'argent pour acheter à manger.
Un kilo de sucre coûte aujourd'hui entre 20 et 25 euros. Pourquoi le gouvernement du Hamas n'intervient-il pas ? Je ne vois personne.
Selon les ONG, pour subvenir aux besoins de la population en eau, en nourriture et en matériel médical, il faudrait que 500 camions d'aide passent chaque jour la frontière égyptienne. Mais ils entrent au compte-gouttes dans la bande de Gaza. L'ONU réitère ses appels à la trêve pour éviter le pire.
Au moins 576 000 personnes à Gaza, un quart de la population, est déjà au bord de la famine. Si rien n'est fait, nous craignons qu'une famine généralisée à Gaza soit presque inévitable.
Alors, soumis à des pressions internationales, les Israéliens vont-ils accélérer la fourniture d'aide alimentaire d'urgence ? Quelle est la responsabilité du Hamas dans cette crise ? Les négociations en cours au Caire, sans l'État hébreu, peuvent-elles aboutir à une trêve ?
Alors, nous allons essayer de voir ça tous ensemble. Merci à tous les trois de nous avoir rejoints. À mes côtés, bonsoir Julia Grignon.
Bonsoir.
Vous êtes spécialiste du droit international humanitaire. Et selon vous, ce qui se passe à Gaza en ce moment, c'est une catastrophe humanitaire. Pour y mettre fin, Israël doit respecter ses engagements internationaux, dites-vous. Mais c'est aussi au Hamas de ne pas instrumentaliser l'aide humanitaire. À vos côtés, bonsoir Vincent Lemire.
Bonsoir.
Bienvenue à vous. Vous êtes historien, ancien directeur du Centre de recherche français à Jérusalem et co-auteur avec Christophe Gaultier d'une bande dessinée Histoire de Jérusalem parue aux éditions Les Arènes. Alors selon vous, on a passé la barre des 30 000 morts à Gaza. C'est d'ailleurs le bilan affiché par le Hamas. Mais ceux qui connaissent le terrain, dites-vous, savent que ce sera plus. Et il faut donc que les combats s'arrêtent. La communauté internationale, dites-vous, doit faire pression sur Israël. Et à vos côtés, bonsoir Frédéric Ancel.
Bonsoir.
Vous êtes géopolitologue, maître de conférence à Sciences Po Paris. Vous avez publié aux éditions Autrement Petite leçon de diplomatie. Selon vous, toutes les lois de la guerre ont été transgressées par le Hamas le 7 octobre. Certains crimes de guerre sont aujourd'hui imputables à l'armée israélienne. Mais au-delà de la dimension humanitaire, la solution de ce conflit sera politique. Dites-vous tout de suite pour ouvrir le débat. Benjamin, vous avez un chiffre du jour.
15 435 camions d'aide humanitaire ont été acheminés à la bande de Gaza depuis le début de la guerre en octobre dernier. Donc selon les autorités israéliennes, ça fait à peu près 125 camions par jour. Ça comprend de la nourriture, mais également de l'eau, des fournitures médicales et du matériel pour s'abriter. Julia Grignon, c'est donc largement insuffisant. Il en faudrait combien de camions par jour ?
Alors, c'est difficile de vous dire
500.
Combien il en faudrait, mais effectivement, avant le 7 octobre, c'est de l'ordre de 500 camions qui rentraient par jour dans la bande de Gaza. Donc, moins de 100 camions par jour, alors que la situation s'est considérablement aggravée, c'est parfaitement insuffisant. Donc, je n'ai pas de chiffres à vous donner. Ce que je peux vous donner, par contre, c'est des règles de droit. Et il y a des règles de droit en droit international humanitaire qui obligent les parties au conflit à laisser rentrer l'aide humanitaire lorsqu'une population civile, comme c'est le cas aujourd'hui, est dans le besoin. Et c'est toutes les parties au conflit qui doivent à la fois laisser passer l'aide humanitaire, qui doit demeurer neutre et impartiale et qui doit être à destination des personnes civiles. Et cette aide ensuite ne doit pas non plus être instrumentalisée ou captée par certains acteurs du conflit.
Alors Vincent Lemire, pourquoi aussi peu de camions entrent aujourd'hui dans la bande de Gaza ?
Bah, on le sait bien, la raison première, c'est qu'ils sont bloqués par les contrôles israéliens. Alors, il y a plusieurs façons de bloquer. Hein. Il y a des façons explicites et puis il y a l'opérationnel. On vérifie, ça prend plus de temps, on revérifie encore. Il n'y a pas assez de points d'entrée. Donc, à partir du moment où il n'y a pas assez de points d'entrée, il n'y a pas assez d'équipes pour vérifier.
Il y a combien de points d'entrée ? Il y a deux points d'entrée ?
Il y en a deux qui sont a priori pour l'instant ouverts. Et puis, ensuite, une fois qu'ils sont rentrés, il faut qu'ils puissent faire le trajet, donc de façon sécurisée. Et là, pour ça, on a besoin de policiers. Pas de combattants du Hamas, de policiers. Et les policiers palestiniens ont été très largement ciblés par l'armée israélienne, j'ai bien dit ciblés. Hein. Bien sûr, il y a des morts, mais plus que, on va dire, que la prévalence des morts dans la police palestinienne de Gaza est plus importante que chez les civils. Et puis, il faut des gens pour distribuer. Et c'est vrai qu'on a...
Mais ça, c'est ensuite, une fois que les camions sont entrés, là déjà, la question qui se posait, c'était pourquoi aussi peu de camions
entre... Oui, mais en fait, tout est lié. Parce que si les camions se font, si les convois se font attaquer par les civils en chemin, bien sûr, c'est parce que les civils sont assoiffés et affamés, mais c'est aussi parce qu'ils savent qu'à l'arrivée, et ce n'est pas seulement le Hamas, quand il n'y a plus d'autorité civile, quand l'UNRWA a été ciblée explicitement et opérationnellement.
L'Agence des Nations Unies.
L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Et donc, il n'y a plus personne pour distribuer correctement. Ce n'est pas forcément le Hamas, c'est aussi les clans mafieux. Au nord, ce qui s'est passé jeudi, ça s'est passé au nord.
On parlait de la fusillade, en tout cas.
La fusillade, 115 morts, parce que des convois se font attaquer et on a des tirs à balles réelles, non pas sur les convois. Le porte-parole de l'armée israélienne a raison quand il dit que l'armée n'a pas tiré sur le convoi. Elle a tiré sur les civils. Parce que les civils ne voulaient pas que l'aide soit captée par des clans mafieux. On a toujours besoin d'une autorité civile. Et une même armée ne peut pas à la fois faire la guerre au Hamas et distribuer des sacs de farine.
Frédéric Ancel, mais en même temps, là, les Égyptiens, est-ce qu'on se dit toujours pourquoi ils n'ouvrent pas davantage leurs frontières? Est-ce qu'il y a une responsabilité de leur part ou pas?
La réponse est oui, l'Égypte pourrait ouvrir sa frontière. Alors le problème, c'est que le maréchal Sissi craint comme la peste la pénétration d'hommes du Hamas. Le Hamas, ce sont des frères musulmans pour l'essentiel. Hein. Les frères musulmans en Égypte, ils sont soit en prison, soit au cimetière. Hein. Donc depuis le coup d'État du maréchal Sissi. Donc ça, c'est une crainte absolument majeure. La deuxième crainte, c'est de voir arriver dans le Sinaï, qui est une péninsule extrêmement aride. Hein. Le Sinaï, c'est vraiment du désert. Hein. Mon maître Lacoste avait l'habitude et a l'habitude de dire la géographie, ça sert d'abord à faire la guerre. Ça sert aussi à expliquer, en l'occurrence, pourquoi l'Égypte n'ouvre pas sa frontière. Et puis, troisième point, l'Égypte ne veut pas que les Israéliens, en tout cas qu'une partie du gouvernement israélien extrémiste, se débarrasse en fait des Palestiniens de Gaza en les renvoyant vers le Sinaï. Alors c'est pas vrai pour la totalité de ce gouvernement israélien, c'est vrai pour une partie, et ce n'est pas vrai pour la majorité des citoyens israéliens qui, par ailleurs, je pense qu'on va y revenir, détestent eux-mêmes l'actuel gouvernement Netanyahou.
Ça, les sondages le montrent effectivement. Mais parmi les obstacles à l'acheminement de l'aide humanitaire au sein de la bande de Gaza, il y a aussi, Anna, le comportement de certains militants israéliens.
Oui, tous les jours, depuis mi-janvier, près d'un millier de militants israéliens se rassemblent au checkpoint de Kerem Shalom pour y bloquer le passage des camions qui transportent ensuite l'aide humanitaire vers Gaza. Et ça semble fonctionner. Quelques rares camions arrivent à passer au compte-gouttes. D'autres sont obligés de faire demi-tour. Et la majorité sont obligés d'être déroutés, ce qui retarde les livraisons. Et au nord de Gaza, eh bien, des militants ont aussi réussi à immobiliser 1049 conteneurs avec de la nourriture à l'intérieur. C'était dans le port d'Ashdod. Alors derrière ces actions coup de poing se cache un collectif qui s'appelle Tzav 9. Il est né en janvier sur les réseaux sociaux et il est composé essentiellement de religieux de droite et d'extrême droite, mais aussi de proches d'otages en colère. Ils ont décidé de passer à l'action parce qu'ils sont convaincus que 70% de l'aide alimentaire est détournée par les terroristes du Hamas et l'idée de fournir de l'aide à leurs ennemis leur paraît totalement inconcevable. Cette position est même d'ailleurs partagée par deux tiers des juifs israéliens, contrairement aux arabes israéliens qui, eux, approuvent à 85% la livraison d'aide, selon un sondage de l'Institut israélien de la démocratie qui a été publié mi-février. Julia Grignon, est-ce que c'est prouvé, est-ce que c'est fondé que cette aide, eh bien, elle est détournée par le Hamas ?
Alors là encore, je ne peux pas vous le dire parce que je ne suis pas sur le terrain et je ne peux pas vérifier moi-même ce qui se passe. Ce que je peux vous dire, c'est que lorsqu'on délivre de l'aide humanitaire, il y a toujours une part de cette aide qui va échapper d'une certaine manière aux acteurs humanitaires. Ça existe dans tous les conflits armés. Mais je veux revenir sur les points que vous avez mentionnés, puis aussi sur certains que vous avez donnés. Tout ça est anticipé d'une certaine manière par le droit international humanitaire. Dans ce que vous venez de dire, Israël et toutes les parties au conflit ont la responsabilité de l'acheminement de l'aide humanitaire. Et donc, s'il y a des personnes civiles, des groupes, des manifestants qui décident d'entraver l'acheminement de l'aide humanitaire, c'est la responsabilité des États qui ont le contrôle sur le territoire.
C'est-à-dire l'armée israélienne, en l'occurrence.
De faire en sorte que ces groupes n'empêchent pas l'acheminement.
Et ce n'est pas vraiment le cas.
Ce n'est pas vraiment le cas. Et l'autre aspect sur le retard de l'acheminement ou sur la lenteur avec laquelle les camions rentrent dans Gaza, vous avez évoqué le contrôle par l'armée israélienne des camions. Ça, c'est également prévu. C'est-à-dire que les parties au conflit ont un droit de contrôle sur l'acheminement de l'aide humanitaire. Puisque l'acheminement de l'aide humanitaire, c'est strictement encadré. Ce sont des soins de santé et c'est également de la nourriture, à l'exclusion de tout autre bien. Donc ça ne peut pas être du matériel de reconstruction, ça ne peut pas être d'autres éléments. Et c'est du matériel à destination de la population civile. Et ça, les parties au conflit ont le droit de contrôler que ça va bien aux personnes civiles et que c'est bien de cette aide dont il s'agit. Mais il ne doit pas s'agir de, disons, d'ingérence dans la distribution de l'aide. Et là, ça serait vécu comme quelque chose d'arbitraire et ça serait contraire au droit.
Juste sur cette aide, il y a un enjeu particulier sur le carburant ou pas? On entend parfois les livraisons de carburant qui sont effectivement un enjeu supplémentaire parce que le Hamas pourrait, en tout cas selon Israël, s'en servir.
Alors, c'est un très bon point. Le carburant est un enjeu majeur puisqu'avec le carburant, aujourd'hui, dans la bande de Gaza, on fait fonctionner les hôpitaux. Or, c'est ce qui permet donc la délivrance de soins de santé. Donc, ça permet la délivrance de l'aide humanitaire. Donc, on doit pouvoir permettre l'acheminement de carburant dans la bande de Gaza.
Sur les responsabilités, Stéphane Séjourné, notre ministre des Affaires étrangères, a déclaré que les responsabilités sur le blocage de l'aide sont clairement israéliennes. Vincent Lemire, il a raison de le dire ou est-ce que c'est faire peu de cas, justement, de la responsabilité également du Hamas?
Ben non, mais enfin, c'est évident. C'est les...
J'entends aussi qu'il peut y avoir, à un moment donné, sur la gestion de cette aide, une intervention, une responsabilité des parties belligérantes.
Mais même avant le 7 octobre, il faut toujours rappeler qu'en droit international, la bande de Gaza était un territoire occupé, y compris avant le 7 octobre, à partir du moment où on contrôle les airs, les frontières et les frontières maritimes, c'est un territoire occupé, même s'il n'y a plus de soldats israéliens à l'intérieur. C'est la première chose. Puis la deuxième chose, c'est qu'il y a des ministres israéliens, et pas n'importe lesquels, qui ont explicitement dit qu'il ne fallait pas livrer d'aide humanitaire pour appliquer leur plan, qui est l'expulsion de tout ou partie de la population civile de la bande de Gaza. Je vais rappeler ce qui s'est dit le 28 janvier dans une conférence qui s'appelait Conférence pour la recolonisation de Gaza, et qui était en fait une conférence pour l'expulsion des populations civiles. Il y avait 12 ministres sur les 35 ministres du gouvernement, donc ils étaient bien représentés, ils ont pris la parole. Il y avait une grande partie des députés de la coalition. Itamar Ben-Gvir, le ministre de la Sécurité nationale, a dit au micro, je ne peux pas, je le cite, la seule solution est la déportation massive des habitants de Gaza. Netanyahou lui-même, quelques jours avant, devant ses partisans du Likoud, avait dit il faut réduire la population de Gaza à son minimum. J'ai cité le Premier ministre, ce n'est pas n'importe qui. Bezalel Smotrich avait donné un chiffre. L'idéal, ce serait 100 à 200 000 habitants à Gaza. Ils sont 2,5 millions aujourd'hui. Et le ministre des Communications, Shlomo Karki, avait donné une définition très claire de la stratégie. L'émigration volontaire doit parfois être imposée avant d'être consentie. Donc, si vous voulez, on voit bien qu'il y a une rationalité, je veux dire, les ministres israéliens ne sont pas plus idiots que nous. Ici, ils savent très bien que le chaos sur place, le fait qu'il n'y ait plus d'autorité civile, plus d'aide humanitaire, conduit à une famine et que donc une partie de la population sera conduite à sortir de la bande de Gaza.
Ce qui a été cité par Vincent Lemire est parfaitement exact et je l'ai rappelé tout à l'heure, plusieurs ministres et non des moindres sont de parfaits extrémistes et considérés d'ailleurs comme tout à fait incompétents à la guerre par les Israéliens. C'est une minorité de ministres même s'ils sont importants et dans toutes les enquêtes d'opinion depuis le grand pogrom du 7 octobre, ce gouvernement écope systématiquement d'entre 70 et 81% d'opinion défavorable. Alors pour différentes raisons, mais il est mort politiquement. Alors évidemment, le problème, c'est que je ne peux pas vous annoncer sa chute demain, après-demain ou dans 3 mois. Mais c'est une question de semaines ou de mois. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, je divergerai un petit peu sur la notion d'occupation. C'est la raison pour laquelle les injonctions sont contradictoires. C'est-à-dire que Netanyahou est dans une pensée magique en disant non, mais de toute façon, le jour d'après, il n'y aura ni autorité palestinienne, ni Hamas. Hamas, d'accord. Enfin, je pense qu'à peu près tout le monde est d'accord, y compris d'ailleurs les régimes arabes modérés, mais certainement pas l'autorité palestinienne, qu'elle doit revenir dans la bande de Gaza. Juste sur le contrôle aérien, maritime et frontalier, oui et non. Depuis le retrait israélien total de 2005, l'Égypte qu'on évoquait tout à l'heure constitue une frontière potentiellement parfaitement ouverte. L'Égypte n'a pas joué le jeu. Or, à se souvenir de ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est-à-dire un gigantesque massacre, les Israéliens nous demandent d'inverser le postulat en nous disant « Mais attendez, s'il n'y avait pas eu ce blocus qui, d'ailleurs, entre parenthèses, a permis quand même au Hamas d'utiliser plusieurs centaines de millions de dollars du Qatar, importés et obtenus d'ailleurs avec la complaisance de Netanyahou, pour faire quoi ? depuis. Et pour faire quoi le 7 octobre? Oui, c'est-à-dire que, occupation, oui, en droit international, certes, sauf qu'en réalité, la férule totalitaire du Hamas dans la bande de Gaza, alors qu'il n'y avait plus d'Israéliens et que le Hamas avait perpétré un putsch en 2007 contre l'autorité palestinienne, ça, on ne peut pas l'oublier, et on le voit bien tous les jours dans la bande de Gaza.
Alors la question est maintenant de la suite, hein, c'est le feu ou pas. Écoutez le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, qui s'est exprimé il y a quelques heures à peine, et il laisse entendre eh bien, que c'est une hypothèse qui se prépare, qui est possible. Écoutez-le.
We have an opportunity for an immediate ceasefire that can bring hostages home, that can dramatically increase the amount of humanitarian assistance getting into Palestinians who so desperately need it, and can also set the conditions for an enduring resolution. And it is on Hamas to make decisions about whether it is prepared to engage in that ceasefire.
Julia Grignon, on voit quand même que l'opinion américaine, en tous les cas la position américaine, est en train d'évoluer, non, par rapport à ce que disait Biden il y a encore quelques jours.
Oui, effectivement, il y a une évolution. Et là aussi, bon, alors évidemment, je prêche pour ma paroisse qui est le droit, et je vois aussi comment les décisions rendues par certaines juridictions internationales, certains mécanismes de contrôle qui se sont saisis de ces questions, et l'ensemble du droit humanitaire joue un rôle, puisque ben, on a la Cour internationale de justice qui a dit que donc les droits plausibles des Palestiniens de subir un génocide étaient une réalité, et que donc Israël devait tout mettre en œuvre pour faire en sorte que ces génocides n'arrivent pas, mais aussi tous les États du monde ont la responsabilité de prévenir un génocide dans la bande de Gaza. Et donc ça crée un effet, puisque les États doivent, premièrement, ne pas se rendre complices de la commission d'un génocide, mais doivent aussi rappeler les parties au conflit, et en particulier ici Israël, à ses obligations internationales, donc dans des relations diplomatiques, faire en sorte qu'Israël se conforme non seulement à la décision de la Cour internationale de justice, mais plus globalement au droit international humanitaire.
Vincent Lemire, il y a les pressions sur Israël pour un cessez-le-feu, donc que font entendre aussi les États-Unis. Et puis, est-ce qu'il y a des pressions sur le Hamas de la part des États arabes pour libérer les otages? Et qu'est-ce qui se produirait si jamais le Hamas libérait demain les otages? Est-ce que, effectivement, la situation humanitaire s'arrangerait immédiatement?
Alors, la différence avec ce qui s'est passé en novembre, c'est que on a bien l'impression, et le Hamas...
De la trêve de novembre.
Voilà, la trêve de novembre, vous savez que c'était des
trêves... Pour les otages détenus par le Hamas et des prisonniers palestiniens.
Voilà, c'était des trêves de 24 heures qui étaient reconduites. Le Hamas, à ce moment-là, avait quand même un meilleur contrôle de la bande de Gaza, et sans doute des otages, et il pouvait fournir des listes parfaitement précises, et vous vous souvenez qu'il n'y a eu pratiquement aucune erreur hein, dans les communications de noms, etc. Là, les Israéliens, effectivement, ne viennent pas au Caire, à ce round de négociation, parce qu'ils disent que le Hamas ne nous a pas fourni la liste des otages encore vivants et libérables, ce qui est vrai. La question, c'est peut-être que le Hamas n'est pas en mesure, dans la situation actuelle et dans le chaos...
Le Hamas ne fait pas preuve de mauvaise volonté pour vous.
Je pense que le Hamas a besoin de quelques jours. Il faut être frais. Ces otages ne pourront être libérés d'abord logistiquement que... avec un arrêt des combats. D'abord parce que ceux qui les détiennent n'ont pas leur GSM branché, si vous voulez. Ils ne peuvent pas être localisés comme ça. Donc il faut que les combats s'arrêtent, il faut que les drones reculent, comme ça s'était passé pendant la première trêve. Et il faut que la branche politique du Hamas qui a négocié, ou qui aura négocié ce cessez-le-feu, communique avec Yahya Sinwar et tous ceux qui sont autour d'eux pour dire... tant d'otages, personnes âgées,
c'est un problème logistique, si je vous suis bien, c'est pas un problème politique. Le Hamas serait prêt à dire oui, on libère les otages.
Y compris pendant la première trêve, il faut que les combats s'arrêtent. On ne peut pas faire sortir des otages dans la situation. On n'arrive pas à distribuer des sacs de farine. Vous voyez, enfin, alors, faire sortir des otages sur le plan logistique et sécuritaire, pour les combattants du Hamas, c'est compliqué. Hein, il faut que ça soit voilà. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'évidemment, on le sait, ça c'est la partie la plus cynique, c'est que les otages, c'est l'assurance vie du Hamas. Donc combien, en échange de combien de prisonniers, s'il reste, juste un dernier chiffre, s'il reste une centaine d'otages vivants et libérables, et on parle d'une proportion de 1 à 10, donc il y aurait 10 prisonniers palestiniens libérés pour un otage, donc ça ferait 1000, juste ça. Je note juste que depuis le 1er janvier, il y a eu 7000 Palestiniens de plus faits prisonniers dans les territoires. Donc, vous voyez qu'il y a aussi une négociation sur combien on va avoir de prisonniers palestiniens libérés pour chaque otage.
Alors, on va avancer un petit peu. Il y a les pressions exercées sur Israël pour aller vers un cessez-le-feu. Il y a les pressions éventuelles donc sur le Hamas dont on parlait à l'instant et ces difficultés-là, la question de la libération des otages, évidemment. Et puis, il y a aussi un certain nombre de responsables politiques qui préconisent des sanctions à l'endroit d'Israël, comme par exemple le chef de file des Insoumis, Jean-Luc Mélenchon.
Il paraît que les sanctions économiques ramènent à la raison les violents. C'est bien ce qui a été fait contre la Russie. alors il faut demander des sanctions économiques contre le gouvernement de l'État d'Israël, de manière à ce qu'il revienne sur son attitude criminelle.
Frédéric Ancel, sanctionner Israël comme on a sanctionné la Russie après l'invasion de l'Ukraine, est-ce que c'est ce serait une bonne solution ?
De toute façon, certainement pas fournie par M. Mélenchon, qui entretient une sensibilité à géométrie extraordinairement variable quand on parle de géopolitique. Par ailleurs, les Ukrainiens n'ont pas perpétré un gigantesque pogrom qui aurait provoqué proportionnellement 20, 30 000 ou 40 000 tués civils en Russie. Bon, là, je pense qu'on assiste à des... Enfin, on entend des propos qui sont...
Deux poids, deux mesures. On sanctionne l'Ukraine, on sanctionne pas Israël.
En l'occurrence, encore une fois, le 7 octobre, enfin, ce qui s'est produit, c'est une attaque contre des civils. Alors, il y avait aussi des militaires, d'ailleurs. Mais enfin, pour l'essentiel, c'est une gigantesque orgie de sang d'un Hamas qui, par ailleurs, non seulement n'a jamais reconnu Israël, qui a chassé l'autorité palestinienne, je le répète, de la bande de Gaza, et qui a refusé les accords d'Oslo. Et à l'époque, vous m'accorderez que le gouvernement israélien n'était pas d'extrême droite. Hein. Rabin Peres, soutenu par des partis arabes, non, c'était pas l'extrême droite et ça marchait très bien. Yasser Arafat, le chef de l'OLP et l'autorité palestinienne à l'époque, traitait le Hamas de terroriste. Donc là, on a affaire à un mouvement jusqu'au boutiste qui a perpétré un véritable massacre. Donc je pense que les deux situations sont différentes. Maintenant, en droit international, et je parle sous votre contrôle, on peut parfaitement demander à un État, enfin exiger d'un État qu'il cesse telle ou telle politique, sans quoi il y aurait des sanctions. Simplement, il faut passer par le Conseil de sécurité. Alors qu'est-ce qui va se passer ? Les États-Unis vont mettre leur veto, la France et le Royaume-Uni d'ailleurs ne voteront peut-être pas cette résolution, mais à ceux pour qui ce serait quelque chose de scandaleux, je rappellerai simplement que sur la Syrie, par exemple, la Russie, la Chine ont toujours mis leur veto lorsqu'il s'agissait d'exercer des pressions sur un gouvernement, enfin sur un pouvoir syrien qui, pendant 10 ans, a perpétré autrement plus de massacres que ce qui est en train de se produire.
Des sanctions. Les sanctions économiques, c'est long. C'est long à mettre en place, c'est long à décider, et ça a un effet à moyen-long terme. On l'a vu sur la Russie, voire pas trop d'effet. Donc, ce n'est pas le sujet, là. On parle de famine, on parle de bébés qui meurent dans les heures et dans les jours qui viennent et au moment où on parle. Le Conseil de sécurité, par contre, effectivement, se met en mouvement, va se mettre en mouvement. Si le Conseil de sécurité met au vote un appel au cessez-le-feu immédiat, les États-Unis ne mettront plus leur veto. Ce n'est pas possible. Kamala Harris a dit « il faut un cessez-le-feu immédiat, période ». Donc là, c'est ouvert. Et si effectivement, après 3 vétos américains, il y a un appel au cessez-le-feu immédiat, je ne vais pas parler des sanctions, appel à cessez-le-feu immédiat de la part du Conseil de sécurité, il n'y aura pas de veto américain et ce sera une mise en mouvement. Et puis je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit sur la Cour internationale de justice, ça a un effet. Et les gens qui nous regardent sont peut-être... Le terme génocide est difficile à entendre pour certains des gens qui nous regardent. La définition, selon la Cour internationale de justice et la Convention de 1945, dont Israël est dont Israël est signataire, c'est une définition extensive du génocide. Un déplacement forcé d'une population civile, c'est un génocide. Premièrement. Et deuxièmement, la Cour internationale de justice, son premier mandat, c'est la prévention du génocide, pas la punition. Il faut l'empêcher, le génocide. Donc quand on dit « mais il n'y a pas de génocide encore », on n'a pas répondu, puisque la Cour internationale, elle doit l'empêcher, précisément, elle doit le prévenir.
Il vous reste 20 secondes de conclusion, Julia Grignon.
Alors, la définition du génocide, je n'y arriverai pas en 20 secondes. Mm-hmm. C'est une définition extrêmement compliquée. Oui, il faut prévenir, mais il faut aussi punir le génocide. La décision de la Cour internationale de justice, ce sont des mesures conservatoires pour justement faire en sorte que ce massacre
n'arrive pas.
Ouais. Et donc, je crois que c'est notre rôle à toutes et tous, et merci de cette émission, de se saisir de ces éléments pour agir en tant que société civile et appeler nos gouvernements à faire en sorte que ce massacre ne se produise pas.
Et avant cela, dans un premier temps, le Conseil de sécurité de l'ONU peut être une voie de passage justement vers un cessez-le-feu.
Mais le Conseil de sécurité, c'est un organe politique, c'est très compliqué. On a parlé des sanctions, il y a aussi l'Union européenne. Mmh. Et l'Union européenne a adopté des sanctions, notamment contre certains.
Mais l'Union européenne ne peut pas imposer un cessez-le-feu.
Cessez-le-feu, non, mais on parlait des sanctions.
Merci en tout cas à tous les trois d'être venus débattre sur ce plateau. Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.